Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, le jumeau, littéralement, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, entre parenthèses, nous le savons, c'est l'apôtre Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son tablier et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, et ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Je prie le Seigneur avant de méditer avec vous ce très beau texte d'Évangile qui parle à notre vie d'aujourd'hui. Seigneur, que ta parole trouve un chemin dans notre cœur pour y déposer cette semence d'espérance, de vie, de renouveau, de vitalité, cette présence de Dieu qui ne nous abandonne jamais, même dans les jours les plus sinistres, les plus noirs. Merci pour cet évangile qu'il se réalise en chacun de nous aujourd'hui à cause de la promesse de Jésus. Amen. Pâques est passé pour les disciples. Et peut-être qu'au fond de leur cœur, ils ont dû se dire ah voilà, un merveilleux temps qui est terminé. On ne pourra plus manger avec Jésus, dormir à côté de lui, partir en randonnée, prêcher l'évangile, lui amener des malades, on ne pourra plus l'entendre. Ce temps de Jésus, de l'évangile, il me paraît comme un paradis. Ça fait partie des archives départementales. Ça fait partie des musées. Il est parti maintenant. Maintenant, on va vivre un deuil. Mais Jésus leur avait dit avant de partir, de mourir, « Je vous reverrai. » Entendons-nous bien la parole de Jésus. « Je vous reverrai et votre tristesse se changera en joie. » Et le matin de Pâques, quand il rencontre les femmes sur le chemin et qu'il leur dit « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Qu'ils quittent Jérusalem et qu'ils partent en week-end dans la belle Galilée toute fleurie. C'est là qu'ils me verront. Jésus leur donne un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous avec Jésus. Chaque jour, sur la terre, dans le ciel, Dieu nous a fixé des rendez-vous pour vivre avec lui. J'ai l'impression que les apôtres, j'aurais peut-être pas fait mieux, les apôtres ne l'attendent plus tellement. Ils vont à la pêche. Je vous avoue que j'aime pas voir les apôtres partir pêcher. Je trouve qu'ils ne sont pas à leur place. Qui laisse ça pour les retraités? Qui laisse ça pour ceux qui ont du temps à perdre le dimanche, mais pas les apôtres? Ils ont tant à faire. Je ne suis pas rassuré de les voir aller faire un petit coup de pêche sur le Tibériade. Enfin, ils reprennent un peu leur ancienne vie, pêcheurs. Parce que Jésus ressuscité, ce n'est pas le paradis. Jésus ressuscité, il faut toujours travailler à la sueur de son front. Et les loups mangent encore les agneaux. Et il y a encore des enfants malades, et il y a encore des personnes âgées qui nous quittent et qui nous font beaucoup de peine ainsi. Mais qu'allons-nous devenir maintenant que Jésus est parti, ressuscité, nous, les fragiles humains? Enfin, revenons à notre histoire. Ce jour-là, cette nuit-là de pêche, ils n'ont rien pris. Et je pense que Pierre, au fond de lui, s'est peut-être dit, c'est moi qui leur donne la poisse, parce que j'ai renié Jésus. J'ai juré que je ne l'avais jamais rencontré. C'est moi, c'est ma trahison qui nous met tous dans la panade. Ils ne prirent rien. Ça a dû leur faire penser à la première pêche miraculeuse où ils n'ont rien pris, mais Jésus leur a dit, allez en pleine eau et jetez vos filets. Filets vides. C'est terrible, hein, toute la nuit. Je pense à ceux qui luttent chaque jour pour une santé où l'on espère un mieux chaque soir, chaque matin, et le filet est vide. Je pense à tous ceux qui font des efforts dans leur vie, qui mettent du courage et qui tirent le filet, et c'est toujours vide. À tous ceux qui espèrent dans leurs enfants, et c'est toujours vide. Vous connaissez les filets vides? Nous en avons dans nos vies. Beaucoup de gens n'attendent rien de l'existence. Leur filet est vide, ils ne sont pas sûrs d'avoir un logement intéressant, pas sûrs de conserver leur emploi, pas sûrs que leurs proches seront présents, aimants, aidants, quand les jours difficiles seront venus de la vieillesse. Ils sont sûrs de rien, on n'est sûr de rien aujourd'hui. La vie est liquide. Que reste-t-il de nos efforts? L'Ecclésiaste dans la Bible dit, ce ne sont pas les plus sportifs qui gagnent la course toujours. C'est vrai. Ce ne sont pas les plus intelligents qui ont des mérites et des prix. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui sont en tête. C'est vrai, nos filets sont souvent vides. Ces sept apôtres, les sept apôtres de ce jour, représentent les gens de la vie ordinaire. Vous et moi. Avec parfois le sentiment qu'il y a un harcèlement du mal contre nous ou que nous sommes responsables d'un mal qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, mais on est responsable de cette pêche qui ne rapporte rien. On est responsable, comme les souffres-douleurs se sentent toujours responsables de mal qu'ils n'ont jamais commis et qui ne savent pas quoi faire. Ce jour-là, dans la barque des marins-pêcheurs de Tibériade, ce n'était pas la joie. Mais Jésus est sur le rivage. Il les attend. Il leur a préparé un petit déjeuner, un peu à la suédoise, avec du poisson grillé et du pain grillé, là, sur des pierres, sur un brasier. Vous avez réfléchi à ce miracle? Je ne parle pas du petit déjeuner que votre mari demain fera pour vous amener, bien sûr, mais du miracle de Jésus. Jésus ressuscité, qui les attend avec du poisson, où a-t-il pris le poisson de grand matin? Il les attend avec du feu, avec du bois sur le rivage. Des petits miracles, pas extraordinaires, pas spectaculaires, mais des miracles d'un amour prévenant, qui répond aux besoins de notre humanité. Parce que de quoi avez-vous besoin? D'une quatrième voiture? D'une deuxième maison? De quoi avez-vous besoin? Nous avons besoin de pain, nous avons besoin d'être en paix avec Dieu et nous avons besoin d'être libérés du mal. Vous relirez le Notre Père, donne-nous notre pain, ne nous laisse pas entrer dans les tentations, pardonne-nous nos offenses et garde-nous, oui, d'entrer en tentation. Présence de Jésus qui les observe. Présence de Jésus dans nos jours difficiles. Je vous assure, Jésus vous regarde. Ah, dans vos jours de découragement, dans le difficile travail de l'éducation des enfants chez les parents, Jésus nous regarde. Il ne voit peut-être pas les poissons qui sont au ras du rivage sur la plage. Il voit mal Jésus parce que c'est obscur. C'est le matin très tôt. C'est obscur aussi dans leur cœur, dans leur vie. Et quand c'est obscur en nous, on voit mal les choses. Mais Jésus va les appeler. Jésus les appelle le premier. Jésus fait toujours le premier pas. C'est jamais vous. Jésus nous aime le premier. Et il va les appeler. Il ne va pas marcher sur la mer pour aller à leur rencontre comme au soir de la tempête. Il va leur envoyer une parole à 100 mètres. 100 mètres, ça fait 3 fois la chapelle des Carmes. 3 fois. Il va leur envoyer une parole qui va courir sur l'eau. Il ne va pas leur dire « Comment ça va ?» Vous savez ce que vous dites quand je vous dis « Comment ça va ?»« Ça va et vous ?» Souvent, c'est comme cela qu'on fait. « Ça va et vous ?» Thomas, il dirait peut-être « Il faut aller... » Un autre dira peut-être « C'est la vie. » Jésus ne pose pas ces questions-là. Comment ça va? Il leur dit « Petits enfants, n'avez-vous rien à manger ?»« Enfants. » Et le mot ici, c'est réservé pour les petits-enfants de moins de 7 ans. C'est comme s'il leur disait « Hé, les gamins, avez-vous quelque chose à manger ?» J'aime bien cette parole. Pleine de tendresse pour ces hommes fatigués de la nuit, qui n'est pas accablante, qui n'est pas une parole de reproche. C'est l'humanité du ressuscité. Jésus ressuscité reste près de nous. Petits enfants, quand il leur dit « Avez-vous du poisson ? N'avez-vous rien à manger ?» Il leur parle pour eux. Il a besoin de rien, lui, puisqu'il a déjà son poisson, son petit déjeuner, ses petits poissons frits et son pain. Il leur parle pour eux. Avez-vous quelque chose à manger? Il leur parle de leurs problèmes. Quand Jésus nous parle, il nous parle d'abord de nos problèmes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Jésus sait qu'ils n'ont pas une sardine dans la barque. Mais il les appelle pour que ils disent à Jésus bien qu'ils n'ont rien, qu'ils confessent à Jésus qu'ils n'ont rien, qu'ils se mettent à prier, qu'ils se mettent à se confier en disant « Seigneur, on a fait tout ce qu'on a pu, on est fatigué, ça ne marche pas, il n'y a pas de poisson. » Il veut entendre des prières sincères, comme les anciens autrefois, les ancêtres, Abraham et les autres, dans leur détresse. Ils appelèrent Dieu à leur secours et leur cri parvenait aux oreilles du Seigneur. Les apôtres écoutent la voix de Jésus qui arrive. Petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Vous êtes à jeun? Vous n'avez pas de réserve dans la barque? Vous allez avoir faim? Prends soin d'eux. Hein? Non! C'est sec quand même. C'est sec quand on répond avec un non. Ils disent même pas bonjour. Jésus ne s'arrête pas à ça. Il ne s'arrête pas à des prières maladroites, à des paroles un peu dures. Il sait que parfois nous sommes sous la vague, fatigués, chargés. Il n'a pas de mépris pour nous. Mais il va leur dire, à 100 mètres quand même, il faut bien crier, hein. Jetez vos filets du côté droit de la barque. Mais ils ont dû le faire, les malheureux. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, à bâbord, à tribord. Et puis qui sait, cet inconnu qui se met à nous commander. Et pour qui il se prend? De quoi se mêle-t-il? Il ne fait pas partie de la barque quand même. C'est qui celui-là? Après tout, ils auraient pu dire ça. Jésus, en leur disant « Jetez le filet », il réveille leur conscience de la première pêche miraculeuse. Il réveille leur foi endormie. Mais rappelez-vous, c'est comme s'il leur disait « Rappelez-vous, je vous l'ai dit une fois, jetez le filet ». Et le filet était plein. Ils ne réagissent pas. On est lent à croire. Et puis, ils le jetèrent. Ce filet qui s'appelle l'épervier. Comme l'oiseau. Ben, c'est un peu ça, en fait. Hein. Le filet, hop, il prend des petits poissons partout, partout. Pauvres poissons, je pense parfois à eux, je me dis, oh, on ne peut rien faire. C'est un plaisir pour les marins de leur couper la tête. Alors, ils ont jeté l'épervier, le filet, sans contester, comme des enfants, comme des petits-enfants, comme si leur volonté se pliait à une main plus forte qu'eux. Malgré leur mauvaise humeur, ils ont jeté le filet dans le lac du Tibériade. Mais nous aussi, mes amis, nous avons fait parfois des choses difficiles sans réaliser que c'était Dieu qui nous donnait du courage et de la volonté. Nous avons fait cette église, cette chapelle, nous l'avons restaurée pendant 13 ans et aujourd'hui, de plus en plus, on réalise que Dieu nous a donné la volonté chaque jour et la capacité. C'est Dieu qui fait ça. Il jette le filet. Mais au moment où le filet descend dans l'eau, savez-vous que Dieu parle aux poissons, aux monstres marins, aux baleines, aux requins, aux oiseaux, pendant que le filet tombe dans l'eau silencieux? Un banc de poissons arrive sous la barque, du côté droit. Parce que le poisson sait obéir à Dieu. Les plus désobéissants de la création, c'est nous. Les étoiles obéissent, les fourmis obéissent, les animaux, tout obéit. Les poissons ont obéi. Et le filet résistait, résistait. Thomas, toujours un peu incrédule, a peut-être dit « c'est encore des cailloux ». Non, c'était des poissons, des gros poissons, des beaux poissons. 153 poissons. C'est trop? C'est la surabondance? Non, c'est la générosité de Dieu. La générosité de Jésus qui fera pour vous au-delà de ce que vous pensez si vous écoutez sa parole. Regardez la multiplication des pains. Regardez les pêches miraculeuses. Alors voyez-vous, mes amis, les épreuves de la vie, les souffrances de l'existence, les fragilités, les imperfections, ça creuse en nous un vide pour recevoir le Christ en nous. On est tellement mal, tellement vide, qu'il y a de la place pour lui. Et Jésus leur a parlé, jetez le filet, je suis avec vous. J'ai compté 153, ils étaient 7 apôtres. 153 divisé par 7, 19. 19 poissons chacun. Mais il en restait un, il y en avait un de trop. 19 fois 7, 152. Il y en a un de trop. On va le couper. Bon, toi, Pierre, qui est toujours en tête, tu veux la tête? Oh, j'aime pas la tête, moi. Bon, Thomas, tu veux la queue? Oh, j'aime pas la queue. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce poisson-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que vous auriez fait? On va le tirer aux sœurs, on va le vendre ce matin au marché. Je crois que le Seigneur a l'air de leur dire, ce poisson-là, il n'est pas que pour vous. Il faudra que vous en fassiez, que vous le partagiez avec d'autres, car ce que Dieu nous donne, c'est pour le bien de tous. Amen. Et cette chapelle, ce n'est pas que pour moi, pour que je dorme la nuit tranquillement, c'est pour que vous veniez vous reposer tranquillement avec nous. Amen. Grâce à Jésus, ils ont eu du poisson. Ils étaient partis pour rien avoir, mais là Jésus les rend conscients de leurs limites. Jésus les rend conscients que leur vie dépend de Jésus avec eux chaque jour. Il faut qu'ils écoutent les paroles de Jésus. C'était après Pâques. Eh bien, après Pâques, ils devront écouter la voix de Jésus qui nous parle maintenant par la Bible, les saintes Écritures, les Écritures saintes. 153 gros poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, l'apôtre, quand il a vu les poissons, il a dit « C'est le Seigneur ». Pour lui, ça a été un signe que c'était le Seigneur, toujours le même. Et il a dit à tous les apôtres, c'est le Seigneur qui nous avait dit, mes frères, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Il est là-bas, il est avec nous dans la barque, il est au ciel et avec vous dans vos maisons, dans vos chambres, il est au ciel et avec vous sur la route en voiture, il est au ciel et avec vos enfants aussi, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Sans moi, leur dit Jésus à travers cette histoire, vous ne pouvez rien faire. Mais Pierre est le plus vif toujours. Commet des bêtises parfois, mais quelle rapidité! Il abandonne le filet de poisson, il abandonne la barque, il abandonne ses amis, il se jette à l'eau et il avance, il brasse, il nage, les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus le regarde nager son 100 mètres brasse. Jésus le regarde comme il le regardait 3 ans avant, il le regardait jeter le filet dans la mer, comme il le regardait marcher sur l'eau une fois, et comme il l'a regardé trahir Jésus la nuit de la mort de Jésus. Il nous regarde tous. Quand on fait le bien, quand on fait le mal, quand on le renie, quand on l'aime, quand on a peur, quand on pleure, il nous regarde. Mais pourquoi il est si pressé, l'apôtre Pierre? Pourquoi il ne peut pas attendre les autres? Pourquoi il se jette à l'eau et il nous montre qu'il est un bon nageur, meilleur que moi? J'ai l'impression que Pierre veut traverser ce qui le sépare encore de Jésus. Ce petit bout de chemin sur l'eau, plus ou moins encombré, pour arriver vraiment au pied de Jésus. Ce petit chemin qu'on doit faire tout seul, qui s'appelle la foi. L'amour de Dieu. Je vous accompagnerai autant que je pourrai, mais à un certain moment, vous devrez faire ce petit bout de chemin pour aller vers Jésus. Je ne peux pas le faire pour vous. C'est comme accompagner un mourant. On l'accompagne au maximum, et puis à un certain moment, on lâche la main. Il y a un petit bout de chemin qu'on ne peut pas faire avec lui. Mais nos prières l'accompagnent et Dieu l'accompagne aussi. Ce petit bout de chemin, c'est donc notre oui, notre amour. Parce que le Christ ne veut pas transporter dans son royaume des ballots de paille, des gens qui disent « Où est-ce qu'on va ? » On ne veut pas du Christ, ça ne nous intéresse pas, mais où est-ce qu'il nous emmène ? On ne veut pas de lui. Le Seigneur ne veut pas transporter des ballots. Il veut transporter des hommes de bonne volonté qui disent « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Nous donnons tant de ferveur, nous donnons tant de soins aux choses inutiles de la terre. L'Ecclésiaste les appelle les vapeurs de la terre, les fumées de la terre. Je pense qu'il faut donner tout son cœur dans cette vie si courte pour l'amour et la foi en Jésus-Christ. Alors, il a nagé, et puis Il est allé vers Jésus-Christ qui avait préparé le repas. Et Jésus lui a demandé de mettre quelques poissons à côté de son petit poisson à lui. Parce que dans le mot en grec, des poissons de Jésus qui est en train de cuire tout doucement, qui est en train de frire, c'est le mot frottin. C'est des petits poissons de rien du tout. Des petits poissons de quelques centimètres. Et eux, ils amènent leurs gros poissons à côté des petits poissons de Jésus. Quelle étonnante collaboration entre Dieu et nous. Nous apportons à Dieu la foi comme les poissons, la foi qu'il nous a donnée, l'amour qu'il nous a donné, et lui apporte aussi la grâce qui donne tout. Nous apportons, il apporte, et on est ensemble, et toute la vie, il y a une collaboration surprenante entre Dieu et les hommes. Alors les apôtres, vous êtes contents ? Venez, mangez. Ça n'a pas changé. Il est ressuscité, il est toujours avec nous. Jésus semble leur dire, je vous attirerai ainsi chaque jour si vous voulez. Je vous prendrai chaque jour dans mon filet d'amour. Vous aurez des découragements, vous aurez des souffrances, des inquiétudes. Mais ne vous arrêtez pas à vos échecs. Prêtez bien l'oreille, je parlerai depuis le rivage d'en haut, tout en haut, très haut. Je vous parlerai si vous mettez votre oreille contre la Bible et là, je vous dirai comment vivre votre vie. Au fond, qu'est-ce qui a changé à Pâques ? Quel changement ? Peut-être cette petite parole de Jésus à Marie de Magdala, ne me touche pas. On ne peut plus le saisir. On ne peut plus le presser, le bousculer. Mais lui prie pour nous à chaque instant. Il a la capacité de prier pour tous les êtres humains de la terre qui vont naître, qui sont nés, qui naîtront au même moment devant son Père des cieux. Parce qu'il ne veut pas que l'on retourne comme dans un temps préhistorique où on vivrait sans prier, sans écouter Dieu, sans s'occuper de Dieu. On vivrait laïquement, sans Dieu, dans une vie qui serait désertique, comme un immense trou noir où s'engouffrent des ricanements, la drogue, l'alcoolisme, des bruits, la mort, le crime. La vie est devenue comme un trou noir, comme les trous de l'espace. Le Seigneur veut nous dire, je veux vous parler, je veux vous montrer la vraie vie. Nous retrouvons là, sur le bord du lac de Tibériade, nous retrouvons le pain, comme dans les évangiles, le poisson, Jésus qui mange, il est ressuscité, mais il mange quand même. Il console Pierre, il les appelle, je suis toujours avec vous. C'est beau ? Nous n'avons que sa voix aujourd'hui, nous n'avons que sa parole aujourd'hui. N'allez pas à Jérusalem pour rencontrer Jésus, n'allez pas à Rome, n'allez pas en Inde, même pas à Paris. Aujourd'hui, nous rencontrons Jésus partout où nous sommes. Nous n'avons que sa voix partout où nous sommes, si vous avez la Bible. Et partout où nous sommes, nous rencontrons une parole de vérité, une parole de recréation, une parole d'amour qui nous attire comme un filet, qui nous nourrit comme le pain et le poisson, qui nous réchauffe comme la braise sur le rivage de Tibériade ce matin-là. Eh bien, devant tout ça, je ne dis ni une ni deux, je me lance à l'eau et je dis, c'est le Seigneur, j'y vais. Amen. Et que dites-vous ? C'est le Seigneur, j'y vais. Allons-y. Allons à lui en toute assurance. À nos problèmes, il répondra. À nos appels, il sera présent. Je vous invite à prier avec moi le Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur. Tu ne nous laisses pas relever le filet toujours vide. Tu es venu nous donner une pleine vie pour ce temps et l'éternité. Tu es venu nous donner une provision de pardon de présence, de paroles réconfortantes. Tu es venu nous donner ton corps et ton sang, ta vie. Remplis notre filet, remplis notre barque et donne-nous d'imiter l'apôtre Pierre qui se jette à l'eau pour aller te retrouver. Seigneur, viens dans notre maison. Viens où il y a des disputes, où il y a la maladie, où il y a la peine et la peur. Viens dans nos vies où des péchés dominent, détruisent, laminent tout. Viens, Seigneur, dans l'Église aujourd'hui. Viens dans notre Église. Par Jésus-Christ, nous te demandons cela, Père céleste. Amen.